compteront le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur.
Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission de Comaguerre, qui est un dossier consacré à un moment particulier de la politique d'un pays important de l'Afrique, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Un pays important en ce sens qu'il est, dans les anciennes colonies françaises, un des plus peuplés, un dont le poids économique et le poids démographique est le plus important parmi toute cette série de colonies de ce qu'on a appelé l'AOF, hein, et même aussi plus peuplé que la plupart des pays de l'AEF, l'Afrique équatoriale française. J'utilise les anciens langages, parce que vous verrez que ce dont on va parler ce soir, donc la création d'un nouveau parti politique en Côte d'Ivoire, qui a porté à sa présidence, pas n'importe qui, en l'occurrence Laurent Gbagbo, s'inscrit dans une bien longue histoire que je vais essayer de vous condenser très rapidement pour vous montrer que tout ce qui se passe en ce moment a des racines assez lointaines et fait partie, c'est un des épisodes de la décolonisation et de l'indépendance réelle des anciennes colonies françaises. Quand on dit d'indépendance réelle, ça veut dire qu'on sait qu'il y a eu des indépendances formelles, c'est-à-dire des constitutions, des chefs d'État et tout, mais on sait que ça s'est fait difficilement, très inégalement et dans des modes très différents selon les pays colonisés, mais qu'au fond, il reste encore beaucoup à faire. En témoigne en particulier, dans le cas de la Côte d'Ivoire, le fait que, à la suite des élections présidentielles de 2010, la France s'est permis de faire un coup d'État pour renverser celui qui avait été élu, en l'occurrence, Laurent Gbagbo. Donc vous voyez que même en 2010 ou début 2011, on n'était pas encore sorti de la colonisation dans ses formes les plus brutales, les plus militaires, ce coup d'État militaire pour renverser un président élu. Et ce qui se passe maintenant, donc l'arrivée à la tête d'un parti politique nouveau en Côte d'Ivoire, s'inscrit donc dans un très long processus de décolonisation. Alors commençons-le à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour ne pas remonter avant, parce que la Deuxième Guerre mondiale fait apparaître ce que chacun sait, mais qu'il faut rappeler, que sans les colonies, sans les troupes coloniales, sans les 170 000 hommes des troupes coloniales qui ont constitué l'ossature de l'armée de la France libre, qui ont donc alimenté les campagnes qu'on connaît d'Afrique, de Libye, etc., et qui ont participé au débarquement, en particulier sur les côtes provençales, le général de Gaulle et la France libre n'a presque pas d'armée. Alors il n'a ni armée ou pas grand-chose, et il n'a pas de territoire s'il n'a pas une partie de la colonisation africaine qui est derrière lui. C'est-à-dire que sans les soldats africains, sans les soldats et sans les territoires africains qui sont derrière lui progressivement, tout ça ne se passe pas à partir du 18 juin au soir, mais sans ce rassemblement d'hommes, de Gaulle est un espèce de chef d'État en exil, comme il y en a d'autres à Londres à l'époque, un gouvernement polonais en exil et tout, il ne pèse pas grand-chose. Et donc, sa place dans l'histoire, y compris dans l'histoire de France et dans l'histoire internationale, elle est liée au fait qu'il avait une base territoriale, qui était l'Afrique, et une base militaire, qui était les troupes africaines. Sans cela, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Or, il en est tellement conscient, qu'est-ce qu'il va faire dès l'instant où il est à la tête du gouvernement provisoire? La guerre n'est pas tout à fait finie. On est au début de l'année 1944, mais enfin, on peut dire que les dés sont jetés et que la guerre va s'achever avec la défaite du Reich. Et que donc le gouvernement de la France libre qui s'est mis en place à Alger va devenir le gouvernement provisoire de la République française. Qu'est-ce qu'il fait? Il établit les règles du jeu des colonies pour la période qui s'ouvre. Et je dis bien, il établit les règles du jeu pour les colonies et il le fait à travers une conférence qui dure plusieurs jours à Brazzaville, donc capitale du Congo, qu'on dit le Congo-Brazza, et qui définit ce qui va être la nouvelle République française, c'est-à-dire que dans sa conception, il n'est pas le seul, mais dans la conception de la bourgeoisie française à l'époque, la France est un empire, mais c'est un empire uni avec un territoire métropolitain et des territoires extérieurs, beaucoup plus vastes évidemment, beaucoup plus peuplés d'ailleurs à l'époque si on fait la totalité. Et c'est ça qui se joue à la conférence de Brazzaville, c'est-à-dire fixer les règles du jeu pour cet empire dans le cadre unifié de la République. Ce qui ne veut pas dire, j'insiste là-dessus et on en reparlera, que tous les habitants et tous les citoyens de cette République élargie ont des droits égaux. On en est encore loin. Mais je veux revenir là-dessus parce qu'il y a une espèce de légende consistant à dire « la décolonisation a commencé à Brazzaville ». C'est totalement faux. Il ne s'est rien passé à Brazzaville dans ce sens-là, puisque, et pourquoi il ne se serait passé quelque chose, puisque de toute façon, ne se sont réunis à Brazzaville que les membres du gouvernement provisoire de la République et les gouverneurs de la France coloniale. Il n'y a pas un seul Africain qui participe à cette conférence, et d'ailleurs pas plus que les colons français qui sont sur ces territoires-là. Alors, les colons français, d'ailleurs, manifesteront après leur mécontentement. Et les leaders africains, qui n'ont pas été invités, donc qui n'ont pas eu voix au chapitre, se manifesteront d'une autre façon que je vais vous expliquer. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire il y a fixation des règles du jeu pour toute une série de territoires et de populations qui ne sont pas invités. C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti à un seul instant de la situation coloniale. Et la meilleure conclusion qu'on peut tirer de cette conférence de Brazzaville du point de vue de la décolonisation, elle est tirée par un certain Laurent Gbagbo lui-même, qui écrit, c'est dans les années 70, un livre. Il est historien de formation, je le rappelle, et il a exercé son métier dans les lycées, à l'université en Côte d'Ivoire, et il écrit un livre qui s'appelle « Réflexions sur la conférence de Brazzaville ». Et en quelques mots et quelques questions, il résume très bien la situation. Alors vous verrez que la façon dont rédige et dont réfléchit politiquement Roland Gbagbo, c'est qu'on a affaire à un personnage à qui il ne faut pas faire prendre des vessies pour des lanternes. Écoutez ce qu'il écrit. Ceux qui prétendent que la conférence de Brazzaville avait une mission libératrice devront répondre à ces questions précises. Qui a décidé de tenir cette conférence? Deuxième question. L'idéologie colonialiste y a-t-elle été rejetée? Troisième question. Le principe de la conquête et de l'occupation des terres d'autrui y a-t-il été condamné? Quatrième question. La spoliation et l'exploitation des peuples soumis y ont-elles été condamnées? Cinquième et dernière question. La culture de chaque peuple a-t-elle été respectée? Et Laurent Gbagbo continue. À toutes ces questions, nous répondons non. C'est le colonisateur qui a décidé de réunir toutes ses troupes pour réajuster sa politique, compte tenu des événements imposés par les circonstances. C'est la France coloniale et colonialiste meurtrie par 4 années de guerre, effrayée de sa propre faiblesse, mesurant avec inquiétude le précipice économique où elle est sur le point de tomber, inquiète de l'attitude nouvelle de ses alliés momentanés, tremblant à l'idée que ses sujets ne soient tentés de lever contre elle d'armes parricides, cherchant à mieux soumettre les autres pour pouvoir mieux se libérer elle-même, c'est cette France-là qui s'est réunie à Brazzaville pour mettre de l'ordre dans la maison avant qu'il ne soit trop tard. Tout est dit. Tout est dit. Et ce que ça va procurer, alors je vous dis, il y a les colons vont réagir en disant « on n'a même pas été invités nous », mais ce n'était pas le but de la manœuvre, il s'agissait de dire « c'est nous les maîtres de la situation » et la colonisation continue sur les bases qu'on connaît, c'est-à-dire le français langue unique, on ignore totalement les langues locales, on n'invite aucun représentant des populations locales, on considère que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu d'occupation des terres, pas de spoliation, tout va bien. Bon. Alors, ça ne va pas passer tout seul, parce qu'il y a quand même, d'abord, dans les troupes qui ont combattu sous le drapeau de la République et de la France libre, il y a beaucoup de survivants, heureusement. Il y a, en gros, presque 30 000 soldats des troupes coloniales qui sont morts pendant les combats de la libération. Mais il en reste quand même d'autres. Et puis, il y a ce que, dans la conférence de Brazzaville, on appelle des évolués. c'est-à-dire qui s'est petit à petit, mais en très tout petit nombre, il est sorti donc des populations colonisées, un certain nombre de personnes qui ont appris à lire, à écrire, puis ont suivi des formations, y compris des formations supérieures, et qui réfléchissent à la situation. Ils sont très très peu nombreux. Mais en même temps, ils sont observateurs. D'abord, la guerre a brassé beaucoup d'idées. On a vu beaucoup de gens, beaucoup d'événements, etc. Ils savent que la décolonisation est à l'ordre du jour partout. Elle est à l'ordre du jour partout. Elle va avoir lieu en Inde, elle va avoir lieu en Indonésie. On sait que le Parti communiste indochinois a gagné sa liberté sur l'occupation japonaise. On sait tout ça. Et donc, ces quelques intellectuels évolués du continent africain savent bien qu'on leur a volé quelque chose à la conférence de Brazzaville. Ils ne sont pas en train d'annoncer l'indépendance. Ils sont en train de se dire, là-dedans, on a compté pour rien. La preuve, on n'a pas été invité. On parle français, on a fait des études, on a des diplômes remarquables et tout. On ne nous écoute pas. Et on ne répond aucune des questions sur le partage du pouvoir, sur les responsabilités qu'on pouvait prendre. Et donc, ces Africains-là, ces leaders africains, cette petite, toute petite élite africaine, numériquement, va commencer à dire que ce n'est pas possible qu'on s'en tienne là. Et ça va se faire d'une façon assez curieuse, parce qu'en fait, dans la formation, dans l'esprit donc de la conférence de Brazzaville, il est décidé que les pays colonisés vont envoyer des représentants à l'Assemblée constituante nationale française. Donc on les considère comme, on ajoute des départements, si vous voulez, et puis on envoie un, deux, pas beaucoup, hein, un ou deux élus par-ci, par-là, un pour le Togo, un pour la Côte d'Ivoire, etc. Bon, mais on va retrouver, donc, à l'Assemblée nationale française constituante, des élus des colonies africaines, qui sont donc des élus de la France gaulliste. Et ils vont se rendre compte que, bon, on les a invités, ils sont contents parce qu'on les avait oubliés à la conférence de Brazzaville, mais ils vont se rendre compte quand même qu'on ne les écoute pas trop. Et puis ils vont se rendre compte, chemin faisant, parce que tout ça se passe donc en 45-46, que du côté de la bourgeoisie française, la décolonisation, elle n'est pas du tout à l'ordre du jour. Et que ce dont ils vont se rendre compte, en particulier dans l'année 1946, c'est qu'il y a un glissement progressif d'une majorité très à gauche dominée par le Parti communiste dans cette Assemblée constituante, vers les socialistes d'une part, et vers la droite qui, pour faire propre, s'est regroupée dans le MRP, donc le Parti démocrate chrétien, constitué pour les besoins de la chose. Ce glissement vers la droite de cette assemblée constituante va déboucher sur une constitution où effectivement les droits des colonisés seront limités. Et le critère le plus intéressant là-dessus est la question des votes, parce qu'il a été voté par cette assemblée nationale constituante à l'unanimité, un texte écrit et formulé par un juriste sénégalais d'origine qui s'appelle Lamine Gueye, un texte qui dit que tous les citoyens de cette république élargie sont égaux. Bon, alors très bien, bravo. Et puis après, ce qu'on a ajouté là, et c'est le coup de pied de l'âne, c'est qu'il y a deux collèges électoraux. C'est-à-dire qu'il y en a, on fera élire autant de députés par les colons et quelques milliers de personnes que par la population, quelques millions de personnes. C'est ça le collège électoral. Donc tous les gens sont égaux, mais le nombre de représentants n'est pas égal. Bon. Et donc là, ils commencent à se rendre compte, ces députés africains dans l'Assemblée nationale française, que les dés sont un peu pipés. Et ça va déboucher sur une initiative qu'ils prennent, un certain nombre, dont on connaît les noms, parce que c'est une initiative de quelques personnes qu'on appelle le Congrès de Bamako. Alors Bamako, donc, c'est au Mali, ça ne s'appelle pas le Mali à l'époque, ça s'appelle le Soudan français. Et il va se tenir à Bamako, donc au mois d'octobre 1946. Donc c'est la réponse, si vous voulez, de tous ces nouveaux responsables africains. Je ne les appelle pas encore des dirigeants, puisqu'ils ne dirigent pas. Mais c'est la réponse de ces nouveaux responsables africains à l'espèce de camouflé qu'a été la conférence de Brazzaville. Et puis la façon dont la République française, petit à petit, glisse vers une position néocolonial, sans le dire. C'est d'autant plus facile que vous savez qu'en janvier 1946, De Gaulle se retire et il laisse cette assemblée et ce régime qu'on appellera le tripartisme, avec un parti communiste qui reste assez ferme sur des positions anticoloniales, un parti socialiste qui dirige les affaires coloniales et qui est déjà très partagé, ça ne fera pas que s'arranger ensuite, et le MRP qui est carrément sur les positions de la droite classique. C'est-à-dire que entre Brazzaville, février 44, et donc le congrès de Bamako 46, on a eu un rétablissement de la capacité politique de la bourgeoisie coloniale française. C'est tout à fait clair là-dessus. Un des éléments, alors c'est là qu'on en revient à l'actualité ivoirienne, un des personnages clés de ce congrès de Bamako, c'est Félix Houphouët-Boigny. Alors pourquoi ? Parce qu'il a lui, d'abord il est médecin, il a une formation de haut niveau, il s'est constitué une base électorale en syndiquant les planteurs ivoiriens, donc il pèse dans l'économie du pays, donc il pèse intellectuellement, il pèse dans l'économie du pays, il a une base électorale, il a des moyens financiers, et il va lui-même penser qu'il faut passer le pas, c'est-à-dire commencer à faire de la politique. Au-delà de donc, sa capacité intellectuelle et au-delà donc, de sa capacité syndicale et économique. Et il crée lui-même, et c'est une date qu'il faut avoir en tête, parce qu'il crée un parti, ça date du 9 avril 1946, qui s'appelle le PDCI, le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, qui existe encore au jour où je vous parle. Bon, c'est donc un élément tout à fait important. Alors, il y aura toute une évolution, donc voilà ce qu'il crée. Et au congrès de Bamako, sur l'exemple de PDCI qui s'est créé donc un peu comme pilote des partis politiques africains, qui ne sont pas indépendantistes, mais qui sont, il y a une partie des responsables africains, des gens formés, capables, qui disent qu'ils doivent avoir voix au chapitre dans la gestion de leur pays. C'est ça que ça veut dire. Et il sort du congrès de Bamako un groupement qui est un peu informel, qui n'est pas très très précis, parce que les individualités très fortes qui se sont retrouvées à Bamako, il y a en gros 14 responsables qui ont signé un manifeste pour appeler à ce congrès de Bamako, sont des individus avec des parcours et des positionnements politiques différents. Certains sont par exemple adhérents à des partis politiques métropolitains, à la SFI ou au Parti Socialiste. D'autres sont plus proches des MRP, plus centristes. D'autres sont très près du Parti communiste. Et d'ailleurs, une partie donc, des députés africains de cette assemblée constituante sont apparentés au groupe communiste, dont Félix Houphouët-Boigny lui-même. Et donc tout ça fait une espèce de large éventail d'opinions. Et donc le principe du rassemblement démocratique africain, donc destiné à fédérer tous ces partis qui doivent se former dans ces pays pour accéder au moins à plus d'autonomie et à plus de responsabilité dans la conduite des affaires de leur propre pays, n'est pas une coquille vide, mais c'est une appellation sous laquelle chacun mettra un peu du sien. Mais il est clair que le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, le PDCI, sera le modèle qui servira à peu près à tous les autres. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est que les orientations des uns et des autres divergent. Et ce qui va amener Félix Houphouët-Boigny lui-même et son parti à évoluer d'une façon qui n'est pas du tout celle qu'on pouvait attendre à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il est appuyé par le Parti communiste, en particulier pour l'organisation du congrès de Bamako. Il est apparenté au groupe communiste à l'Assemblée nationale en 1945 et 1946. Mais son glissement de cette gauche communiste à la droite va être sans arrêt jusqu'à la fin de ses jours. Puisqu'il pourra, il se signalera, il faut le dire aussi, ça fait partie du personnel, comme étant un des chefs africains, des chefs d'État africains, après son indépendance en 1960, qui défendra l'apartheid en Afrique du Sud. Ce sera un des chefs d'État africains qui défendra la colonisation de la Palestine par Israël. Il aura les positions les plus droitières et les plus à droite possibles qu'il soit avant de disparaître. Tout en gardant beaucoup de richesses et de capacités d'entre gens. Il sera donc un des hommes de confiance du maintien du régime néocolonial. C'est-à-dire tout en étant indépendant, avec tous les avantages que ça peut lui procurer pour gérer les affaires de son propre pays, il est le point d'accrochage et l'appui fort, très très fort, de la République coloniale française. C'est ça qui est la vérité. Et le premier personnage qui va décider qu'il faut sortir, alors il crée un parti unique, ce parti, donc le PDCI, créé en 1946, le premier personnage qui décide de remuer, d'intervenir là-dedans pour changer les choses, c'est à nouveau Laurent Gbagbo, qui dit à un moment, et il le payera par exemple de sa liberté, il fera de la prison, il dit « il faut passer au multipartisme, Il y en a assez de ce régime. Il voit bien, parce que lui, il a vu l'évolution et le glissement de Félix Houphouët-Boigny, de position donc très en pointe, très à gauche, à des positions néocoloniales les plus mauvaises, les plus radicales dans le mauvais sens. Et donc, il sait qu'il faut sortir de ce carcan, de ce parti unique, le parti du président. Et il décide la création du Front populaire ivoirien, dont on entend parler dans l'interview que vous allez entendre tout à l'heure. Ça, c'est un élément nouveau. Ce Front populaire ivoirien portera Laurent Gbagbo à la présidence de la République aux élections donc de 2000, aux élections présidentielles. Mais il aura, à la suite du renversement donc, et du coup d'État français de 2011, un avenir un peu particulier. Je le dis maintenant parce que dans l'émission, Pierre Kipré l'évoque mais ne donne pas de détails. C'est-à-dire que dans la mesure où il reste sur place en Côte d'Ivoire au moment où Laurent Gbagbo est en prison, un certain nombre de dirigeants de ce Front populaire ivoirien, ils vont se rallier au régime qui sera tout content de dire « mais le FPI maintenant me soutient » alors que Laurent Gbagbo ne le soutient pas du tout. Et c'est de ça qu'on entendra parler très brièvement dans l'interview de Pierre Kipré qui suit. Donc, situons bien les choses. La création donc, du parti qui a été créé donc, au mois d'octobre à Abidjan, au mois d'octobre 2021, le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire, est d'une part un rappel de ce rassemblement démocratique africain, c'est-à-dire une appellation qui permet à tous les partis de tous les pays ex-colonisés et pas tout à fait décolonisés, de se fondre dans ce moule commun, pas très contraignant, mais quand même intéressant. Donc, on pourrait imaginer, dans quelques années, l'histoire nous le dira, des partis populaires africains du Burkina Faso, des partis populaires africains du Bénin, chacun vivant sa vie, mais les relations étant facilitées par un minimum d'harmonisation politique entre tous les dirigeants. Ce que, évidemment, la République française néocoloniale ne verrait pas d'un bon œil, on s'en doute. Donc voilà ce que je voulais situer avant, ce parcours donc très très long de Laurent Gbagbo. Et puis je voulais citer aussi, pour ceux qui s'intéresseraient à cet extraordinaire congrès de Bamako, qui correspond à un moment d'effervescence chez les nouvelles classes dirigeantes africaines, même si c'est des classes toutes petites numériquement, que le seul ouvrage existant, et il est de qualité, est de Pierre Kipré lui-même, sur le congrès de Bamako. On peut le trouver sur le net, il est téléchargeable et tout. Je vous invite à lire, c'est un ouvrage de très très grande qualité. Et donc, Pierre Kipré sait tout ce qui s'est passé à ce moment-là, ce qui lui donne une qualité particulière pour nous raconter ce qu'on va entendre dans la suite de cette émission, c'est-à-dire le congrès constitutif du PPA-Côte d'Ivoire qui s'est tenu donc au mois d'octobre à Abidjan. Et avant donc de lui laisser la parole, on va passer une petite musique qui est de la bouche d'un chanteur ivoirien qui s'appelle Serge Kassi et qui nous parle de la sécurité sociale. Je ne l'ai pas choisi tout à fait par hasard parce que la sécurité sociale est un des dossiers que Laurent Gbagbo, du temps de sa présidence, malgré toutes les difficultés qui lui ont été faites par la République française néocoloniale, a essayé de faire avancer pour que tous les citoyens de ce pays aient la sécurité sociale. Et donc, Serge Kassi nous parle de la sécurité sociale, et puis on entend Pierre Kipré nous parler du congrès fondateur. Merci. J'ai vu une dame mourir
paix sociale. Où sont les infrastructures? Où sont passées les pierres? Pensez à nous les pauvres. Nous avons le droit de vivre comme vous. Pensez à nous les pauvres. Nous avons le droit de vivre. Pensez à nous les pauvres. Nous avons le droit de vivre comme vous. Pensez à nous les pauvres. Nous avons ce droit de vivre.
Et qui vient d'avoir un rôle renforcé par les derniers événements qui viennent de s'y dérouler. Il s'agit donc de la Côte d'Ivoire, c'est le pays dont il parle et dont il est un citoyen tout à fait remarquable. Et puis le dernier événement, c'est la constitution d'un nouveau parti sur le sol de la République de la Côte d'Ivoire, nouveau parti dont le président nouveau a été désigné, qui était attendu, mais ça a été confirmé. Ce parti nouveau donc, s'appelle Laurent Gbagbo, et ça a été l'occasion donc, du démarrage d'une nouvelle structure politique dans ce pays qui est en train de se transformer dans sa représentation politique à la suite du retour dans son pays, après son acquittement, du président Laurent Gbagbo. Ce parti, donc, Pierre Kipré, qui est avec nous, nous le présentera pour ce qu'il est, c'est-à-dire son caractère d'innovation, dans la mesure où le titre qu'il a pris n'est pas un héritage d'un passé ancien. C'est-à-dire qu'il a pris le titre d'un parti qui a des ambitions nouvelles, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais sur l'ensemble du territoire de l'Afrique telle que nous la connaissons. Et c'est ça le deuxième élément novateur. Il ne s'agit pas simplement d'une résurrection politique de Laurent Gbagbo. Il s'agit, j'allais dire, le phénix est beaucoup plus grand qu'il n'était. Et donc, il s'agit d'une résurrection amplifiée par le projet politique qu'il y a derrière cette construction. Voilà, on écoute Pierre Kipré. Merci d'être avec nous, Pierre.
Merci, merci Bernard. Merci à tous tes auditeurs. Oui, en effet, j'ai eu le grand plaisir d'assister au congrès constitutif du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, le PPACI. C'est une formation politique nouvelle, proposée, dont la création a été proposée par le président Laurent Gbagbo. pour éviter des disputes inutiles au niveau de l'ancien FPI. Disputes qui viseraient à savoir qui sera le président, qui va conduire, etc. Mais au-delà, des disputes sur l'identité du FPI en tant que parti de gauche.
D'accord.
Pour éviter tout cela, le président Gbagbo a décidé de créer une autre formation politique, laissant donc à M. Afi Nguessan, qu'il avait fait nommer président du FPI durant de longues années et qui lui paraissait vouloir marchander la restitution de ce parti au président Gbagbo, comme le demandaient les militants du FPI. Sachant que la justice, qui avait déjà eu à connaître des difficultés et des disputes au sein du FPI pendant que le président Gbagbo était en prison, la justice, de toute évidence et pour des raisons politique évidente, allait donner raison à M. Afi si le président Gbagbo se hasardait à porter plainte. Pour éviter tout cela, et comme il l'a dit si bien, il ne faut pas laisser à un enfant l'opportunité de faire honte à une vieille personne. Il lui a laissé le FPI comme il le souhaitait. Et il a décidé, avec l'appui de ses compagnons, de créer une autre formation politique.
Pas de débat sur une captation d'héritage.
Pas de débat sur la captation d'héritage, etc. Et automatiquement, ceux qui se sont toujours reconnus dans les choix de Gbagbo et qui faisait partie du FPI, se sont tout de suite mis derrière Gbagbo. Ceux qui n'étaient pas du FPI, mais qui se reconnaissaient aussi dans les choix et dans les actions du président Gbagbo, se sont adjoints. Si bien que la nouvelle formation politique n'est pas une réplique du FPI ancien, mais bien une nouvelle formation avec comme dénominateur principal la qualification de parti de gauche. C'est important de relever cela parce que c'est par rapport à ça que va se dessiner l'avenir de ce parti. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire fin septembre parce que et ça faisait presque 11 ans que je n'avais pas vu, que je n'étais pas retourné dans mon pays. J'étais en exil parce que, proche de Gbagbo, ancien ambassadeur auprès de la République française, je me suis dit que tant que mon ami et président était en prison à La Haye, à la CPI, je me considérais comme prisonnier moi aussi. Et je ne mettrais pas les pieds en Côte d'Ivoire tant que lui ne rentrerait pas libre dans notre pays. Dieu merci, tout s'est bien passé. Il a été acquitté, blanchi. Et récemment d'ailleurs, à l'ONU, le président de la CPI a fait un discours faisant le point sur les activités de la CPI et il a évoqué
les raisons de l'acquittement de M. Laurent Gbagbo et de M. Blégou Deschamps et de la libération, enfin de la levée du procès, du mandat d'arrêt contre Mme Simone Gbagbo.
De telle façon qu'il a un peu lavé la
réputation. Il a complètement lavé la réputation de Laurent. Et Laurent a retrouvé tout son honneur d'homme libre. Ça a été une joie pour beaucoup de gens. En tout cas, pour ma part, ça a été une joie indicible. Nous avons eu peur de toutes les tracasseries pour son retour et tout. Il est rentré triomphalement en Côte d'Ivoire. Et je me suis dit qu'il était temps que je rentre moi aussi, puisque je n'avais plus de raison de rester en exil. Celui pour qui j'étais en exil est rentré, donc je rentre. Quoi qu'il en coûte, je rentre. Des gens m'ont dit, ah oui, mais on ne sait pas. J'ai dit, je m'en fiche. Celui pour qui j'étais en exil est rentré, je rentrerai. Si on le tue, on me tuera à ce moment-là aussi. Dieu merci. Tout s'est très bien passé. Tous ceux qui ont voulu rentrer sont rentrés et continuent de rentrer. Et il n'y a rien. Tout se passe bien. Quand il n'était pas encore rentré, il m'a fait l'honneur de me poser quelques questions, de discuter avec moi des choses et d'autres, et de choses importantes, notamment sur l'avenir politique de notre pays, sur notre rôle. Nous avons le même âge. J'ai 3 mois de plus que lui, mais nous avons le même âge, et souvent pour le taquiner, je l'appelle petit frère. Il dit, à cause de 3 mois, j'ai dit, ah oui, moi j'ai bu beaucoup de lait, beaucoup plus de lait que toi. Donc, bref, l'avenir est notre rôle à nos âges, notre rôle dans cet avenir. Et quand je suis arrivé, on s'est vu. Et j'ai dit, c'est 2 jours après mon arrivée qu'il a annoncé son souhait de créer un autre parti politique. Je n'ai pas été étonné, mais en même temps, j'étais un peu surpris. Je pensais que ça allait être plus tard qu'il allait annoncer cette affaire.
Il ne t'en avait pas fait la confidence.
Il ne m'avait pas fait la confidence. Je savais qu'il préparait un coup. Mais il m'a pris de court. Mais j'étais très heureux parce que ça correspondait bien aux analyses que nous avions faites, que nous avions partagées, lui et moi. Et donc, quelques temps après, il a annoncé la constitution de commission préparatoire. Et je n'ai pas été surpris de voir mon nom dans la commission chargée d'élaborer et de rédiger le manifeste de ce futur parti. C'est vraiment le cœur de l'affaire. Bon, on a travaillé. J'ai d'abord été moi aussi dans mon village et tout, enterrer mes morts, mais quand je suis revenu, on a travaillé, et les commissions ont travaillé vraiment d'arrache-pied. Et je dois dire qu'on était quasiment prêts avant le congrès. Le congrès s'est tenu les 16 et 17 octobre. Je dirais que 2 jours avant, tout était prêt. Même les statuts et règlements intérieurs, le manifeste aussi, vraiment, tout était prêt. L'organisation pratique du congrès, comment les gens allaient venir, les cotisations, vraiment quelque chose pour vous dire à quel point ce congrès a été la manifestation d'un engouement populaire. Il y a eu 90 000 cotisants, 90 000 personnes qui ont cotisé au moins 1 000 francs, sinon 100 000, 200 000. Et nous connaissons, nous savons, moi je le sais, il y a des gens appartenant à certains partis politiques que je nommerai pas, qui nous ont même apporté leur contribution. J'ai vu quelques noms de gens, 500 000, 1 million. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le traitement qui a été fait de cette affaire du FPI n'a pas plu à beaucoup de gens dans l'opinion publique. Beaucoup ont considéré que c'était une preuve d'ingratitude, de manipulation politique et de misère politique. Et le mot n'est pas fort. De misère politique. Et donc, il y a eu cette réaction. La deuxième chose, cela signifie que Laurent Gbagbo reste l'un des hommes les plus populaires de Côte d'Ivoire, pour ne pas dire le plus populaire. Beaucoup de gens se reconnaissent dans son discours, dans son action. Et ce n'est pas rien pour un homme politique, surtout après avoir connu ce qu'il a connu. Et la troisième chose, pour nous qui n'étions pas du FPI auparavant, cela justifiait encore plus notre adhésion à venir.
C'était ton cas, d'ailleurs.
C'est mon cas. Moi, j'ai rompu avec le PDCIR déjà depuis 2002, à la suite de la rébellion de 2002 et l'attitude d'abord ambiguë, puis partisane du PDCI. Et à ce moment-là, j'ai écrit au secrétaire général de l'époque pour lui dire que je rompais avec ce parti politique. Je ne pouvais pas comprendre que ce parti politique qui avait été aux avant-postes de l'indépendance de la Côte d'Ivoire fasse bon marché de l'intégrité du territoire national, fasse bon marché de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et s'acoquine avec des voyous. Donc j'ai rompu à ce moment-là. Et depuis, j'ai décidé d'être dans la société civile pour garder ma liberté de ton. Et vous savez que, pour ceux qui me connaissent, quand c'est noir, je dis c'est noir. Quand c'est blanc, je dis c'est blanc. Qui que vous soyez, je ne me suis jamais gêné, même du temps du président Oufo-Boigny, pour dire ce que je pensais. Ce n'est pas maintenant que je vais changer, surtout à bientôt 77 ans. Comme je l'ai dit un jour à un président qui voulait me faire peur, j'ai dit, monsieur le président, si c'est pour le poste que j'occupe, vous le reprenez. Mais je vous fais remarquer une chose, vous n'avez pas doté ma femme, vous n'avez pas payé mes études, je ne mange pas chez vous. Et ce n'est pas grâce à vous que je suis professeur titulaire de chaire depuis 20 ans. Donc, ne vous hasardez pas à crier sur moi. Une seule personne peut crier sur moi, c'est mon père. Vous n'êtes pas mon père. Donc arrêtez. Il était surpris. Bon, je passe dessus. Pour dire, je tiens à garder ma liberté de parole. Connaissant Laurent depuis notre adolescence, il sait comment je suis, je sais comment il est. Et on s'entend bien, Dieu merci. Mais on ne s'est pas toujours entendu bien. Donc, bon, là, depuis 2002, elle a pris une stature qui me séduit totalement. Et maintenant, j'ai décidé vraiment de l'accompagner ouvertement, sans faux fuyant, de l'accompagner. Et donc le congrès a eu lieu. Le 16, en principe, on devait avoir la salle à partir de minuit. Il y a eu des trucs pour gâcher notre fête. Dieu merci, on a réussi à surmonter tout cela. Il n'y a pas eu le moindre incident populaire. Ça a été la fête d'un bout à l'autre. La fête, les gens à Blocos, devant les écrans géants, avec des orchestres dansés en uniforme, à l'Hôtel Ivoire, dansés dans la salle.
Comme une espèce de
libération. Une libération. Et la parole a été libérée. Quand vous lisez le manifeste, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Nos invités ont été impeccables. Et nous avons poussé notre maturité politique, on a invité le RHDP,
le
parti du président Ouattara, qui a bien parlé, et nous avons applaudi correctement, on ne l'a pas hué, et nous prouvions ainsi, par cette invitation, notre volonté de main tendue aussi, et de réconciliation des Ivoiriens. Mais pas à n'importe quel prix, parce que nous avons dit ce que nous voulions, et ce que nous étions, et ce que nous pensions pouvoir apporter pour le futur de la Côte d'Ivoire.
Il y a la main tendue et il y a le manifeste. Il y a les deux.
Les deux.
Voilà, c'est ça.
Et donc, je dois dire que la chose a été bien accueillie. Disons quelques mots du manifeste. Trois idées forces. Premièrement, le constat de la misère politique, institutionnelle, économique, sociale, culturelle, non seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique. Comme cela est écrit dans le manifeste, nous sommes Ivoiriens parce que nous sommes Africains. Il n'y a pas de Côte d'Ivoire ailleurs qu'en Afrique. Et les constats que nous faisons de la situation africaine sont les mêmes qu'on retrouve dans la plupart des pays africains. Deuxième élément force, notre volonté de choisir en l'adaptant à nos cultures, une orientation idéologique, celle du socialisme démocratique. Mais nous ne sommes pas là pour reproduire un discours, une leçon ou autre. C'est la base de notre analyse de la réalité qui nous amène à choisir cette voie, parce que c'est celle où nous pouvons affirmer la liberté, mais en même temps la volonté de solidarité sociale et la volonté d'indépendance pour notre pays et pour l'Afrique. Mais comme je le dis, c'est par rapport aussi à notre culture. Je vous prends juste un exemple. Dans certains pays au monde, en Occident par exemple, en Europe occidentale, vous avez la social-démocratie. Et vous avez des sociaux-démocrates qui sont au pouvoir et qui dans leur interprétation à eux de la liberté, posent comme élément aussi de liberté la liberté sexuelle, l'homosexualité ou autre. Ça fait partie de leur culture. Nous, ce n'est pas notre culture. Et ce n'est pas parce que nous sommes sociodémocrates que nous allons appliquer mécaniquement. Non, nous refusons. Ça ne colle pas avec notre culture africaine. C'est juste pour voir comment nous interprétons par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre analyse de la situation réelle, ce qu'est la social-démocratie. Il en est de même dans le domaine de l'économie. On vous parle de l'économie sociale de marché. C'est quoi l'économie sociale de marché? Non. Pour nous, quand on regarde bien derrière l'économie sociale de marché, il y a le libéralisme, l'ultralibéralisme, à travers l'ordolibéralisme. Non, on ne veut pas. On veut autre chose. Et cette autre chose, c'est à l'analyse de notre situation économique réelle. Comme disait Feu Amilcar Cabral, c'est l'analyse du réel qui vous permet de définir les concepts, pas l'inverse. La troisième trame, il était nécessaire cette fois de porter au grand jour, c'est notre volonté d'apporter notre contribution au changement de l'Afrique à travers, non pas simplement un discours, mais une pratique panafricaine.
Je m'en suis expliqué largement dans une interview que j'avais donnée, mais il n'est pas inutile de le rappeler. Le panafricanisme, qui est né dans les milieux de la diaspora noire américaine et qui a été repris par les élites africaines,
a servi à partir de 1945 d'éléments idéologiques pour la lutte pour les indépendances. Et après, à partir de 1960, ça a même été pour quelqu'un comme Kwame Nkrumah l'idéologie qui devait permettre de défendre notre indépendance. Mais il y a eu des oppositions. Il y a eu des oppositions et sans que les gens s'en aperçoivent, quand je le dis d'ailleurs, c'est à ce moment-là que les gens ouvrent les yeux. Lorsque, à la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, on a dit qu'on devait reconnaître les frontières héritées de la colonisation, on a implicitement demandé à chacun de créer l'État-nation. Et l'État-nation, plus tard, allait par sa propre volonté et par des mécanismes automatiques créer l'unité africaine. Faux! À partir du moment où vous créez l'État-nation, ce qui l'emporte, ce sont les intérêts de cet État-nation. Mais on a oublié une chose, c'est que ce n'est pas l'État qui crée la nation. C'est l'inverse. Et la crise du panafricanisme, crise idéologique a commencé là. À cela se sont ajoutées les manipulations électorales, une fausse démocratie. Après l'illusion des années 90-98, on a glissé pour revenir à la pensée unique et l'État-nation a continué d'être en panne pour devenir dans certains pays, dont le nôtre, dont le mien, un ethno-nationalisme. Un État ethno-nationaliste.
technique. C'est pas ça. C'est pas avec ça que vous pouvez faire l'unité. Vous pouvez faire l'unité africaine. Il faut revenir donc aux bases du panafricanisme. La dépense de l'indépendance africaine, la défense de la dignité des Africains, la défense de leur richesse. Et en nous mettant ensemble, nous pouvons constituer un grand ensemble géopolitique qui, unit sur des bases bien précises et pour des domaines bien précis, peut discuter avec d'autres grands ensembles. Dieu merci, le président Gbagbo partage aussi cette approche et il a fait une très belle démonstration dans une interview qui est parue à l'Humanité, dans le journal L'Humanité. Ce sont des, tout ce que je vous dis là, ce sont des choses que j'ai dites dans un ouvrage que j'avais publié en 2019 sur le concept de souveraineté. Et le président Gbagbo avait été très heureux de voir que nous partagions beaucoup de choses. Donc, c'est vous dire pourquoi je n'ai pas été étonné qu'il me fasse appel et pourquoi lui aussi n'est pas étonné que je sois très tôt membre de son parti. Donc, cette approche doit nous permettre d'être plus dynamique, plus offensif dans le regroupement des Africains, des États africains sur des points bien précis pour défendre nos intérêts, notre culture, nous faire respecter et discuter d'égal à égal avec les autres. Qui dit que les Africains ne peuvent pas se mettre ensemble pour avoir une armée avec des missiles? Même si on les fabriquait, on peut avoir l'argent pour acheter. Qui nous dit qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour construire 20 000 km de voies ferrées avec nos propres sous, notre propre argent, sans emprunter quoi que ce soit? On peut le faire. Le président Gbagbo, quand il était au pouvoir, avait fait des propositions dans ce sens. C'est tout ça qui a mis la puce à l'oreille à certains pays. Ah, il est dangereux, s'il vous plaît. Dégagez-le. Mais certains Ivoiriens n'ont pas oublié. Certains Ivoiriens se disent, peut-être qu'avec lui, on va commencer à nous respecter. Mais, comme je l'ai dit à certains, n'allons pas vite en besogne. On vient de créer un parti, c'est un bébé monstrueux, il a une grosse tête. Allons-y doucement, nous aurons des difficultés en chemin. Mais nous devons avancer, nous devons faire grandir notre bébé. Et nous le ferons grandir. J'ai confiance. Alors on nous dit, oui, mais quand vous parlez de ça, il y a les problèmes ivoiriens, vous laissez ça pour vous occuper des problèmes africains. J'ai dit, mais les problèmes ivoiriens, c'est les problèmes africains, c'est ça les problèmes africains. Quand on ne t'achète pas ton cacao, c'est pourquoi? C'est pas parce que tu n'es pas africain, machin. Tu es un pauvre bougre que tu peux discuter avec Bolloré ou bien avec machin, avec machin Chouet ou Nestlé ou Kaibo. Non. Mais si vous ne vous mettez pas ensemble, la Côte d'Ivoire produit 40% du cacao. Le Ghana 20%. Ça fait 60%. À eux deux seulement, ils peuvent tout bloquer. Mais s'ils bloquent, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah bon, d'accord. Bon, on va prendre le mauvais cacao d'Indonésie. Tu as le bec dans l'eau. Donc, or, si nous sommes intelligents, qu'on a dans nos différents États un ministère du commerce, mais au plan continental, un ministère des relations commerciales interafricaines qui vont centrer nos échanges sur nous-mêmes, chacun achetant chez l'autre ce qu'il n'a pas, petit à petit. Et là, on dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Puis nous créons
nos propres petites usines. On va pas construire la Mercedes, dernier cri. Mais nos enfants sont très intelligents. Au Ghana, il y a déjà des gens qui fabriquent. Au Nigeria, au Kenya, au Rwanda, il y en a qui fabriquent déjà des petites voitures. Pas chères. On achète ça. Ah bon? Ils ne veulent plus acheter chez nous. Bon, si vous voulez qu'on achète, venez construire. On fait comme la Chine. La Chine de Deng Xiaoping en 1978 a commencé comme ça. Aujourd'hui, la Chine est deuxième puissance économique mondiale. Nous aussi, on peut le faire. Bref, les problèmes ivoiriens sont les problèmes africains. Quel que soit le bout que, par lequel vous les prenez, c'est la même chose. Pour avoir eu la possibilité de voyager en Afrique, je connais pratiquement tous les pays africains, sauf le Botswana, l'Égypte, la Somalie et le Soudan. Les quatre pays que je n'ai pas visités. Tout le reste, j'ai visité. Et quand j'ai dit visiter, c'est-à-dire je suis parti, je suis resté au moins 3 semaines. Je connais. Mais c'était la même chose. La même chose. La même corruption, les mêmes dessous de table, les mêmes... Bref, les mêmes conneries. Or, on peut changer ça en nous mettant ensemble sur des points bien précis. Il ne s'agit pas de faire comme le souhaitait Feu Nkrumah, un exécutif. Non. Chacun garde des secteurs comme l'éducation, la santé, machin. Mais il y a 2 ou 3 secteurs ciblés où on élabore la politique pour l'ensemble du continent et on met les choses en route. C'est possible. L'Union africaine vient enfin de créer la ZELECAF. C'est un point de départ pour le commerce interafricain. Encore faut-il y mettre la volonté. Mais comme derrière, il y a les multinationales qui tirent. Si une multinationale ou bien un pays occidental t'a aidé à devenir président, il y a des mesures que tu ne vas pas prendre. Résultat, nous souhaitons qu'en compagnie du PPHCI, des partis se réclamant de la gauche accèdent au pouvoir et qu'ensemble, on oriente la politique générale de l'Afrique dans un sens qui est celui du rassemblement. Ça nous prendra du temps. Peut-être que nous, on ne sera pas là pour voir. Peut-être que ce seront nos petits-enfants. Mais en tout cas, aller dans un sens qui soit celui-là. Parce que c'est notre seule manière d'échapper à ce que nous vivons. Tous les jours, je ne dis pas de temps en temps, mais tous les jours. La France est intervenue en Côte d'Ivoire en 2010, d'abord en 2004, détruire notre aviation. Qui a dit quoi? Personne. Il ne nous avait pas déclaré la guerre. Tout cassé. On a protesté, mais qu'est-ce? Personne. En 2010, bombarder la maison du président, machin, l'ONU s'est mêlée. Mais si nous étions plusieurs, si la CEDEAO n'était pas une officine de certaines puissances, qui allait nous faire quoi? Personne. Personne. Regardez la CEDEAO dans cette affaire du Mali. La Guinée, la CEDEAO est devenue le porte-voix de certaines puissances occidentales. C'est malheureux, mais c'est un constat. Il faut rompre avec ça. Et pour rompre avec ça, nous pensons, nous pouvons nous tromper, mais je ne crois pas qu'on puisse se tromper. Pour nous pensons qu'il faut que ce soit une autre approche, et une approche qui soit celle de gauche. On peut demander, on peut dire, mais est-ce que la gauche occidentale peut vous aider Oui, c'est toujours possible. Mais qui résolvent eux-mêmes leurs propres problèmes déjà, leurs propres contradictions. Je ne crois plus à la gauche, à des rapports sains entre la gauche occidentale et la gauche africaine. Sauf si la gauche occidentale prouve le contraire. De temps en temps, on a quelques lueurs, comme par exemple le Parti communiste français, qui de temps en temps sort des trucs. Mais quand on analyse bien, parfois ça nous... Mais au moins, eux parlent, et parlent juste. Quelqu'un comme le député Jean-Pierre Lecoq dit des choses. Mais quand on regarde bien, est-ce qu'il a l'aval du PCF, de la direction du parti? Est-ce qu'il ne tire pas lui-même un peu fortement? Connaissant ce parti, je ne suis pas loin de penser que Jean-Pierre tire un peu. Et ça dérange des gens. Mais il avance, il s'en fiche. Et ça, j'aime des gens courageux comme ça. Beaucoup de gens disent d'un de mes livres sur la naissance du RDA que c'est la meilleure étude sur le RDA, sur la naissance du RDA. J'en remercie les analystes.
Rappelons le RDA, parti fondé
par Félix Houphouët-Boigny
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
En 1946. Ouais. Et je rappelle souvent à des gens qui sont du PDCI et qui sont viscérablement anticommunistes. J'ai dit, ceux qui ont écrit les statuts du PDCI-RDA, qui sont encore pour la plupart là, c'est M. Franceschini et M. Casanova, membres du Parti communiste français, qui ont été secrétaires de séance lors de la création du PDCI, et qui ont tenu, et qui ont rédigé tout, et vous avez entériné. C'est seulement en 1978, au congrès de 1980, pardon, que certains éléments ont été changés. Donc, votre anticommunisme, vous pouvez le mettre quelque part.
Oui.
Du point de vue théorique, vous devez le mettre quelque part. Ah, mais vous ne savez pas ça. Il dit, si tu ne connais pas ton père, ferme-la. Bon. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous informés. Nous sommes tous adultes et vaccinés. Nous avons tous eu des parcours différents. Nous avons tous vécu, lu certains ouvrages, etc. Nous pouvons réfléchir par nous-mêmes. Et je tire toujours mon chapeau au président Gbagbo. Nous-mêmes, qu'est-ce que nous disons? Pierre, bouscule tes frères. Écrivez quelque chose nous-mêmes, de nous-mêmes. Pourquoi reproduire ce... Et ça me plaît. Et donc, ne serait-ce que ça, je m'engage totalement. Je m'engage aussi parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un bébé. Faisons-le grandir. Mais faisons-le grandir autrement qu'autrefois. Les gens attendent que tout soit gâté pour demander la mobilisation du militant de base. Il ne sait pas. Il faut lui apprendre. Il faut lui faire comprendre ce que c'est que militer. Ce qu'est son parti, les thèmes principaux, qu'il se les approprie totalement. Et qu'il analyse la vie quotidienne par rapport à cette approche. À partir de ce moment-là,
Vous n'avez pas besoin toujours de le réveiller. Non. Dès qu'il apprend qu'il y a quelque chose qui va contre, le parti se lève. Parce qu'il aura été formé. Et cette formation, il faut la maintenir. L'ajuster aussi au niveau de langue du militant. Tout le monde n'a pas fait polytechnique. Tout le monde ne connaît pas les théories qui ont pion sur rue en sciences politiques. Tout le monde n'a pas fait droit. Tout le monde n'a pas fait ceci ou cela. Il y a le petit gars, le petit peuple. Il faut lui parler dans sa langue. Lui expliquer. C'est que c'est que le panafricanisme. C'est que la souveraineté. Quand on dit qu'on veut un pays souverain, ça veut dire quoi dans ta langue? Et c'est facile. C'est facile de lui expliquer. Parce que ça correspond aussi à ce qu'était la culture de ses aïeux. C'est pas nouveau la souveraineté en Afrique. C'est pas nouveau. Il y en a qui sont morts. J'ai retrouvé, quand je préparais un livre sur l'histoire sociale du Bénin, de l'ancien royaume d'Abomey, j'ai retrouvé un texte oral. Un texte, en fait, c'est la transcription d'une tradition orale par un instituteur dans un village. Ce sont les déclarations, les premières déclarations de ce roi qui a créé le royaume d'Abomey, Webadja. Et Webadja disait, celui qui touche à mon territoire, il aura touché à mes cheveux. Il devra en répondre. J'ai également retrouvé la même thématique. Et Webadja, c'était au début du XVIIe siècle. J'ai retrouvé la même thématique dans l'Empire du Mali, au XIIIe siècle. La même thématique dans l'Empire de Ghana, XIe siècle. C'est vous dire que c'est un élément d'ordre permanent dans les formations politique africaine. Ce n'est donc pas nouveau la souveraineté. Prenez l'organisation politique du peuple à Djoukou. Ils sont constitués en classes d'âge. Ces classes d'âge qui se succèdent les unes après les autres selon un calendrier rigoureux tous les 7 ans. Avec des mission précise au niveau de chaque classe d'âge. Première catégorie, ce sont ceux qui jouent le rôle de soldats. Ils n'ont pas à discuter de quoi que ce soit. La communauté est en danger, vous allez vous battre. Ceux qui décident de savoir, de constater les dangers, c'est sur quelle base ? Sur la base de la souveraineté de la communauté. La communauté doit décider pour elle-même, par elle-même, pour tous ses intérêts. C'est ça. Mais ça, tu peux le dire dans ta langue. Si nous ne faisons pas cet exercice et qu'on reste à Abidjan, à discuter des théories, on est passé à côté, on va tuer le bébé. Dieu merci, la direction du parti partage ma proposition. Et c'est une des tâches que j'ai décidé de me donner. Arriver sur place, quand je vais repartir, constituer une petite équipe. Et nous allons travailler à préparer des documents pour les diffuser. Niveau universitaire, niveau un peu moyen, niveau aura des pâquerettes. J'ai en tête, par exemple, pour le rat des pâquerettes, prendre un ou deux instituteurs que je connais qui vont
ramener le discours universitaire en une page dans la langue, puis on va traduire dans les langues nationales, distribuer, parce qu'il y a des émissions en langue nationale, distribuer un peu partout. Il y a les radios de proximité, distribuer partout. Former le citoyen. Et d'ailleurs, ce sera toujours utile pour l'État. Parce qu'un citoyen qui est bien formé, il ne s'élève pas pour casser n'importe comment. La violence politique, il sait la maîtriser. En tout cas, il la ramène à sa plus simple expression. Et regardez ici, dans votre pays, cette histoire des gilets jaunes. Les gens ont ressenti des démangeaisons. Vraiment, il y a quelque chose qui va... Mais comme ils n'ont pas la formation politique, ça a duré combien de temps? Un an, deux ans. C'est parti. Ça s'est terminé en eau de boudin. Parce qu'il n'y avait pas une formation de base pour investir là où on décide. Car l'objet d'une formation du citoyen et du militant, c'est pour arriver à ça. Un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Nous, on ne se cache pas. Hein. Nous, on veut conquérir le pouvoir. Les gens vous disent, mais Babo, il va être candidat. Pourquoi? Il a été déjà président. Donc, il n'en a rien à cirer. Mais là, si vous voulez, si vous êtes fatigué, vous pouvez partir et puis lui dire, prends ton siège, parce que c'était son siège. Si vous lui dites, il prend. Mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. Et on ne fait pas la politique qu'en étant président. En étant militant de base, tu peux faire la politique. Donc, ce n'est pas ça sa tasse d'été.
Il a tout dit, il a dit, moi je reste.
Aujourd'hui, il veut former la jeunesse. Il veut former la jeunesse, il veut des remplaçants. Comme ça, s'il n'est pas là, si nous ne sommes pas là, nos jeunes la prennent. Hein, les Agnero, tout ça, ils prennent la suite. Mais bon, c'est important. C'est important. Bref, ça a été un moment très exact. Un moment extraordinaire. Et bon, comme j'avais déjà pris un certain nombre de rendez-vous ici, je suis revenu il y a quelques jours, je vais répondre à tous ces rendez-vous et repartir chez moi. Mon pays me manque, comme je le dis à beaucoup de gens. Madou, Abidjan est doux, Abidjan est trop doux. C'est vrai, les gens te disent, ah oui, mais voilà, il y a la misère. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il faut reconnaître aussi que, bon, il y a des choses qui ont été construites. Ça bouge. Ça bouge. Bon, qui mange le plus d'arachides, mais ça bouge. Partout. Moi, je reconnais. Quand vous voyez le troisième pont, c'est une merveille architecturale. Quand vous voyez ce qui est en train de se faire au niveau de l'indigné, tu te dis. Et dans tous les quartiers, ça bouge. Tu vas à l'intérieur, ça bouge. Bon, mais en même temps, pour un observateur bien averti, quand vous allez dans certains quartiers, les gens marchent voûtés. Ça m'a paru. Ça bouge partout. Tu arrives dans d'autres quartiers, ils sont bien redressés, la tête en main. Autre remarque, les voitures d'occasion. Tu en trouves, surtout dans les quartiers où les gens marchent voûtés. Et les voitures neuves, flambant neuves, tu les trouves là où les gens marchent la tête haute. Où ils parlent haut et fort. Ça, ce sont ceux qui bouffent. Mais bon.
Voilà.
Le système néolibéral dans lequel nous sommes
tous
produit ce type de division sociale.
Est-ce que nous allons continuer dans cette voie? Est-ce que nous devons continuer dans cette voie? Au niveau du PPHCI, nous attendons d'avoir complètement notre récépissé d'inscription. Et nous répondrons à ces questions. Voilà, Bernard, le témoignage que je peux faire de cette nouvelle donne politique en Côte d'Ivoire.
Merci. Je vais te permettre d'ajouter quelques questions. Donc, dans cette, il y a quand même une équipe dirigeante. Donc, d'une certaine façon, tu fais partie. Est-ce que tu peux nous la présenter dans ses composantes, ses origines, son âge, cette équipe du nouveau parti? Il y a pas, on va, les journalistes ici vont dire c'est le parti de Bagbo, mais ça c'est trop facile et c'est pas très intéressant.
Alors,
ceux qui ont participé aux travaux des commissions avec qui tu as rédigé le manifeste.
Alors, deux éléments apparaissent très, très nettement. Hein. Beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes. Le président élu, il n'a pas été désigné, il a été élu à l'unanimité. Le président a désigné un président exécutif. Le statut lui autorise, qui est beaucoup plus jeune que nous, hein, il a
Hubert
Houlaï. Hubert a 12 ans de moins que nous. Quelqu'un qui a la soixantaine, il est dans la soixantaine. Mais le secrétaire général du parti est un jeune, Damana Picasso, il a 48 ans. La présidente du conseil de contrôle, qui est vraiment lors de l'espèce du conseil constitutionnel de notre parti, une dame, Marthe Agbo, qui est un peu plus jeune que nous, mais c'est une femme. Et comme si je m'attendais à ta question, ils sont 62 dans cette commission. Il y a 29 femmes. Et le président Gbagbo a insister et continue d'insister, d'ailleurs le jour du congrès il l'a dit, il faut plus de femmes, au moins 40% de femmes dans nos instances, mais il faut qu'elles soient compétentes, on ne les met pas parce qu'elles sont belles ou parce qu'elles sont femmes. Tu peux être femme et nulle, tu peux être femme et corrompue,
comme un homme.
Les jeunes, il nous faut beaucoup de jeunes, mais il faut que tu sois compétent, on te voit à l'œuvre. Si tu es en train de magouiller, on te dégage. Donc, les structures qui ont déjà été mises en place, c'est cela qui ressort déjà. Et ce qui est en train de se préparer, je n'en dis pas plus, c'est ce qui va ressortir. Beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes. Pourquoi les femmes? Bon, d'abord, d'un point de vue général, ayant choisi comme l'un des thèmes la liberté individuelle et collective, nous voulons marquer aux femmes notre volonté de défendre leur liberté individuelle et collective. Parce que elles souffrent de ces entorses à la notion de genre. La deuxième chose, c'est que nous avons constaté aussi que quand on confie une responsabilité à une femme, elle y met son cœur parce qu'elle veut toujours prouver qu'elle est meilleure qu'un homme. Pour l'instant, c'est ce que nous constatons. Parce que justement, étant minoritaire partout. Et la troisième chose, c'est que grâce à l'éducation, tout au jour d'aujourd'hui, à la différence du temps de nos mamans,
Vous avez beaucoup de femmes qui ont une grande compétence, qui sont des...
Là, je viens de voir, hier, là, ils ont relevé de ses fonctions le directeur général de l'ANSUT. L'ANSUT, c'est l'organisme d'État, une société d'État chargée d'organiser et de promouvoir les technologies de l'information, de nouvelles technologies dans le domaine des télécommunications, etc. Le monsieur a été remplacé par une jeune dame qui est aussi ingénieure, sortie des grandes écoles, profil nickel. Donc, il y a des femmes qui ont du poids. Donc, on veut leur donner leur chance aussi au plan politique. Si elles sont avec nous, on les met là-dedans, puis bon, elles font leur preuve. Les jeunes, ben parce que nous pensons que c'est l'avenir. Hein. Tout le monde dit que les jeunes, c'est l'avenir. Mais moi, j'ajoute que ce sont les jeunes qui posent dans les thèmes qui sont les leurs et pour l'avenir qu'eux vont vivre, les questions essentielles, les questions qui les intéressent. Moi, je suis à la retraite. Je ne poserai pas le problème de l'emploi de la même manière qu'un jeune de 25 ans. Lui, c'est sa vie, là. C'est lui qui va bien poser. Moi, je vais poser ça en tant que grand-père, parce que mon petit-fils n'aura pas eu d'emploi. Je ne vais pas poser ça en tant que personne n'ayant aucune ressource du fait de son chômage. Tu vois, c'est juste un exemple. Donc, les jeunes sont les mieux placés pour poser les questions de l'avenir qui sera le leur. Nous, les aînés, nous pouvons les aider à mieux poser les questions, mais surtout à mieux rechercher les voies et moyens du fait de notre expérience. Et c'est comme cela qu'on peut avancer. Et comme nous le constatons, ne serait-ce qu'en prenant les chansons de reggae et de zouglou, ce sont les jeunes là qui parlent du panafricanisme sans toujours bien comprendre le contenu, hein, mais ce sont eux qui en parlent plus. Et comme ça, ça nous intéresse aussi. Formons-les, orientons bien leurs réflexions et surtout leur capacité d'action. Voilà les deux raisons pour lesquelles nous voulons miser sur les femmes et les jeunes. Et ce parti sera surtout un parti de jeunes. Un parti de jeunes. Voilà, pour être complet.
Dernière question sur les représentations internationales. Tu as évoqué Jean-Pierre Lecoq.
Oui, oui.
Jean-Paul Lecoq. Mais il y avait d'autres, dans d'autres
oui.
pays. Alors, quelle est leur sensibilité à cette annonce d'un parti des peuples d'Afrique? Comment réagissent-ils?
Bah, ils ont été très heureux. Ils ont été très heureux de voir que ça part de Côte d'Ivoire. Il y en a qui ont même dit... Ce n'est pas étonnant, c'est de Côte d'Ivoire qu'est partie l'idée de RDA, en pays franc, dans l'ex-AOF et l'ex-AIF. Donc c'est normal que ça parte d'ici. Puis bon, nous sommes, pour la plupart, nous constatons que nous avons beaucoup de nos concitoyens qui sont installés en Côte d'Ivoire. Donc bon. Mais surtout, nous constatons que la démarche, contrairement à tout ce qu'on a raconté, la démarche de Gbagbo a toujours été celle de rassembler les Africains et non de diviser. Et effectivement, c'est pas Gbagbo qui a instauré la carte de séjour. Au contraire, dès qu'il est arrivé, il l'a supprimé. C'est pas Gbagbo qui a inventé l'ivoirité. Moi, on m'a accusé d'être le père de l'ivoirité. J'ai dit, mais non, regardez ailleurs. Regardez ailleurs, à côté, ou en haut. C'est Konan Bédié. Bref, ils ont été sensibles à ça. La
troisième chose, c'est qu'il se sentit, mais c'est pas con ce qu'il dit. Si nous nous mettons ensemble sur un certain nombre, on peut faire des pas de géant. Donc, les représentants des pays africains qui étaient là, étaient séduits par cette idée, étaient partants pour développer la chose. L'un des messages qui ont séduit la salle, il y a eu d'abord le message du représentant du Ghana, le représentant du parti de Rawlings. Bon, son nom me reviendra. Et le message de Pierre Sané, du professeur Pierre Sané, qui ont été vraiment les deux discours qui, du point de vue des avancées sur la question de la souveraineté, sur la question des libertés, sur la question de la démocratie, sur la question du panafricanisme, ont été impeccables. Après, il y a le discours aussi du parti sankariste du Burkina, qui était pas mal. Puis il y a eu bon, les autres, c'était pas mal aussi. Mais vraiment, les deux qui ont retenu l'attention de la plupart des gens, en tout cas, moi, mon attention, c'est Pierre Sané et celui du Ghana. Un universitaire et...
Les deux sont universitaires.
Oui. Pierre Sané est l'ancien sous-directeur général de l'UNESCO pour les sciences sociales.
D'accord.
Avant ça, il a été secrétaire exécutif d'Amnesty International. Avant ça, il a été secrétaire exécutif du CRDI du Canada. Il est de formation, il est expert comptable de formation. C'est quelqu'un que je connais, qui me fait l'amitié de me compter parmi ses amis. Nous nous connaissons depuis 78. Il est professeur de sciences politiques à Witwatersrand, en Afrique du Sud. Il est sénégalais et secrétaire général du Parti socialiste sénégalais. Le Ghanéen, lui, est universitaire, il est professeur de sociologie et en même temps journaliste. Il est rédacteur en chef d'un des grands journaux du Ghana. Et il a beaucoup aidé les réfugiés ivoiriens au Ghana. Voilà. Mais c'était l'homme de main, c'était le bras droit de Rawlings.
Et est-ce que vous avez, pour terminer sur ce chapitre, est-ce que vous avez imaginé des systèmes d'échange systématiques justement entre partis, même s'ils portent pas tous le nom de...
Ça se prépare, ça se prépare.
Ça se prépare. Ça passera nécessairement.
Ça se prépare. Ça se prépare.
Ils aient ce nom-là ou un autre.
Mais vraiment, on attend les 3 mois.
Voilà. Je crois que c'est une formalité administrative.
Oui, non, mais je sais, mais...
Il n'y a pas de censure, gouvernementale.
Ici ? Oui, ici. Mais chez nous... On veut respecter toutes les normes. Les choses vont être claires et qu'on aura notre récépissé, à ce moment-là, on peut rendre public un certain nombre. Pour l'instant, on fait comme si de rien n'était. Nous sommes toujours en constitution. Voilà.
L'enregistrement officiel du parti.
Voilà.
Et donc, tu nous reviendras quand ce sera chose faite.
Il n'y a pas de problème. Moi, je compte faire la navette entre la Côte d'Ivoire et la France. Je viendrai souvent parce que parfois je suis invité à donner des conférences, des trucs comme ça en France. Donc bon, je viendrai assez souvent.
Nous t'attendons. Tu auras
Merci
une
beaucoup.
Chose à nous raconter.
Merci
bien.
Et bien sûr, nous l'attendons. Et donc, au mois de février, quand le nouveau parti sera officiellement déclaré et reconnu, il prendra son essor et donc le petit bébé qui nous a été présenté se mettra à marcher. On attend ça avec beaucoup d'impatience chaleureuse. Merci de votre attention. Merci, Sylly. Je ne sais pas, l'émission sera podcastée sur la radio, comme d'habitude. Vous la retrouverez donc dans le programme, à la date et à l'heure de cette émission-ci. Merci de votre écoute. À très bientôt.
Bonjour. Nous avons aujourd'hui un invité de...
Le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête.